Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves, bonjour à tous. C'est un chiffre qui forcément interpelle, qui ne nous rassure pas ce matin sur l'ampleur du cataclysme économique qui nous attend. 22% des entreprises s'apprêtent dans les semaines, les mois qui viennent à mettre en place un plan social. Résultat d'une enquête révélée ce matin par Le Parisien. Bonjour Martial You.
Bonjour.
Diminution d'effectifs à prévoir donc dans plus d'une entreprise sur cinq. Quels sont, Martial, les secteurs les plus fragiles et plus en difficulté aujourd'hui?
Les secteurs qui risquent de licencier, c'est assez logique, sont d'abord ceux de l'événementiel, du marketing, du conseil, des secteurs sinistrés depuis le début du confinement, qui n'ont pas encore repris leur activité et qui sont les premiers budgets qu'on coupe en cas de crise. Juste derrière, vous retrouvez la restauration et le commerce. On a vu les difficultés annoncées par des groupes comme Alinéa, Conforama, La Halle. Ce sont des métiers qui emploient beaucoup de gens à temps partiel, beaucoup de contrats courts. Et d'ailleurs, depuis le confinement du 11 mai, on a une activité très forte chez les coiffeurs, les électroménager les libraires, mais pas dans l'habillement qui reste sur une activité moins forte qu'il y a un an à la même époque. Et on a vu que l'intérim a été la première variable d'ajustement, c'est toujours le cas d'ailleurs, avec 75% de chute d'émissions au début du confinement selon Prisme Emploi qui regroupe les professionnels du secteur. Ça veut dire 557 000 postes d'intérimaires qui ont été supprimés. Et le plan d'économie de Renault va certainement encore frapper l'intérim en premier lieu. Alors pour l'instant, les entreprises jouent sur les effectifs les plus flexibles, CDD, intérim. Mais le plus gros risque, souligné d'ailleurs dans une audition au Sénat du patron du MEDEF il y a quelques jours, c'est que les entreprises ne recrutent plus avant même de licencier. Et ça a déjà commencé. En septembre, en plus, on a 700 000 jeunes qui sortent de l'école et qui vont arriver sur le marché du travail.
Merci beaucoup Martial You, chef du service économie de RTL. Il faut donc s'attendre à souffrir, et ce sont les mots du président de la République en début de semaine, illustration de cette tempête sans précédent, et Martial en parlait il y a quelques instants, le plan d'économie préparé en ce moment par le groupe Renault qui s'apprête à fermer 3 usines et à reconvertir celle de Flins dans les Yvelines. Un moindre mal pour les salariés de ce site historique de la marque. Julien Fautra, vous les avez rencontrés hier, prêts à tout pour sauvegarder leur emploi.
Oui, cette probable transformation de l'activité n'effraie pas les salariés.
On n'aimerait pas, c'est que ça ferme en fait. Il faut juste qu'il y ait de l'activité, que les gens continuent de travailler, ça nous conviendra.
Aucun affolement ici, hein. Les salariés se sentent encore protégés par l'État qui vient de prêter 5 milliards d'euros à Renault.
Il y a aussi l'État français qui est là, qui apporte aussi un soutien colossal aussi. C'est sûr, il y aura une nouvelle ère qui va commencer et pourquoi pas s'adapter aussi. Moi, je suis rentré chez Renault en 92, j'avais 21. Non, il y en a encore là. Et j'espère que ça restera encore, même s'il faut s'adapter.
S'adapter, changer, l'idée semble acquise, même pour les syndicats, même pour Force Ouvrière, rompue au conflit dur. Écoutez Eric Contou, délégué FO ici à Flins.
À mon avis, on abandonnera donc les véhicules à Flins. Dès l'instant qu'on a d'activité, à la limite, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est travailler, on veut du travail.
Une première annonce a été faite ici. Le site de Flins produira les masques pour tout le groupe. Une trentaine de personnes sera affectée. Peut-être une première étape pour un site qui accueille près de 4000 personnes tous les jours.
Reportage signé Julien Fautra. Du travail, quelle que soit l'activité, vous venez de l'entendre. Sachez que l'usine Renault de Sandouville, en Seine-Maritime, doit rouvrir la nuit prochaine après 2 semaines de fermeture dues à des conditions sanitaires jugées insuffisantes.
Les Français devront-ils retourner aux urnes le mois prochain? Possible, mais pas sûr.
Édouard Philippe se réserve le choix de la date, ou bien l'année prochaine, en janvier, ou bien dès le mois prochain, effectivement, le dimanche 28 juin, à la veille des vacances d'été. Mais dans ce cas de figure, ce sera sans campagne, sans rassemblement, sans distribution de tracts, distance physique impérative en cette période. Pour le patron de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, un scrutin dans ces conditions n'a pas beaucoup d'intérêt.
Objectivement, je ne vois pas comment on fait une campagne électorale digne de ce nom pour des élections municipales de proximité, alors qu'en réalité, les électeurs ne pourront pas rencontrer leurs candidats et les candidats pas parler réellement à leurs électeurs. Très franchement, de vous, moi, il y a encore beaucoup de gens en France qui se souviennent des propos du premier tour, des propositions du premier tour. Vous voyez que c'est la première préoccupation des Français? Alors on nous explique que c'est pour relancer l'économie, etc. Non, c'est pour arranger les élus et pour pouvoir se débarrasser du problème.
Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI, interrogé hier par Marie-Bénédicte Allaire.
Une pause et puis on évoque le jeudi de l'Ascension, moment important pour les chrétiens, à huis clos cette année. A tout de suite.
RTL Matin.
C'est donc le jeudi de l'Ascension, élément essentiel de la foi chrétienne, mais les fidèles vont devoir prendre leur mal en patience.
Mais pas question, une fois encore, de célébrer en public la montée de Jésus-Christ vers le ciel. Les messes restent interdites, du moins en présence de fidèles, et ce, malgré l'avis du Conseil d'État qui a ordonné au gouvernement de lever l'interdiction des réunions dans les lieux de culte. Ce ne sera pas pour ce week-end. Alors à Paris, à la paroisse Saint-François-Xavier, on s'organise pour faire communier les croyants. Mais chacun chez soi. C'est un reportage de Nicolas Burnand.
Derrière l'autel, le père Lefebvre Pantalise récite la messe face à des rangées de bancs vides.
Cette fête fonde notre espérance. En ces derniers moments où nous sommes sans nous voir les uns les autres, l'amour des choses de Dieu.
Sur l'estrade, il n'y a que deux choristes, situés chacun à bonne distance. Yorick chante ici depuis le début du confinement. Il commence à trouver le temps long.
Le fait d'être tout seul, c'est extrêmement troublant. Et c'est-à-dire que pour chanter, j'ai besoin moi aussi d'être porté par l'assemblée qu'il peut y avoir le dimanche habituellement à la messe. Et c'est pour ça qu'il y a toujours des servants de messe, il y a un petit peu de monde pour essayer de magnifier cette célébration.
Le curé finit par présenter l'hostie, sans personne pour la partager. Cette célébration est enregistrée par Jérôme, un paroissien, grâce à un smartphone fixé sur un trépied bricolé.
C'est une vraie tristesse de ne pas être tous réunis. La communion et la prière surtout est plus forte lorsqu'elle est partagée que lorsque l'on est tout seul dans son salon. On a prévu de pouvoir mettre en place les gestes barrières avec des petites rubalises qui matérialisent là où les paroissiens peuvent s'asseoir. On veut aussi pouvoir vivre notre foi comme nous souhaitons.
La messe est diffusée sur le site internet de la paroisse. Après des mois d'absence, les fidèles espèrent pouvoir retrouver leur église à la Pentecôte et communier ensemble.
Reportage signé Nicolas Burnand. C'est en tout cas un week-end de l'Ascension en forme de test pour ceux qui veulent prendre la route après 10 jours de déconfinement partiel, d'autant que la météo s'annonce estivale. Alors il y a toujours cette restriction des 100 km et le gouvernement prévient qu'il y aura des contrôles renforcés sur les routes tous les jours d'ici dimanche, mais aussi dans les gares, à moins de 100 km de Paris justement. Et bien, il y a le gîte de Céline et ce week-end, il sera plein.
Nous accueillons deux couples qui ont réservé deux chambres, donc nous sommes complets. Ce sont essentiellement à 100% des Parisiens et qui veulent absolument de la verdure et surtout de l'espace. Ça a beaucoup manqué, donc le Parisien, c'est sa première requête. C'est pas deux week-ends prolongés qui vont nous permettre de sortir la tête de l'eau, hein. Mais c'est avec plaisir qu'on voit que les Parisiens reviennent par chez nous. C'est le bon côté de ce problème de coronavirus. On espère qu'ils vont découvrir notre région pour certains et c'est génial.
Voilà, Céline et son gîte à Hermeray près de Rambouillet dans les Yvelines, joint pour RTL par Thomas Dulin.
RTL 8h09, c'est donc la fin d'un mythe. 11 ans après son entrée dans la flotte Air France, l'A380 ne volera plus pour la compagnie tricolore.
Adieu le géant des airs. Et dire qu'il y a 15 ans, ouais, c'était le premier vol inaugural à Toulouse de cet appareil, ce mastodonte hors norme. On parlait alors d'une révolution. Bonjour Pierre-Julien.
Bonjour.
L'arrêt définitif était prévu pour fin 2022, mais la crise sanitaire pousse donc Air France KLM à précipiter la fin de l'aventure.
Mais son exploitation est bien trop lourde pour le groupe fragilisé. Pourtant, il restera l'un des chouchous du grand public. Mais voilà, ouais, l'A380 avec son double pont est arrivé trop tôt ou trop tard pour être la panacée économique des compagnies aériennes. À début 90, on pensait que les aéroports allaient être saturés. Alors pourquoi ne pas fluidifier le trafic en mettant en service un modèle à plus de 500, voire même 800 sièges? Mais alors que le coût du programme Airbus flirtait avec les 15 milliards d'euros, il n'y a pas eu la saturation annoncée. Boeing avait lancé son 777, moins de sièges, mais pouvant aller plus loin, sans escale. Et les motoristes, surtout, ont sorti des réacteurs de plus en plus économes en kérosène, moins polluants. La génération 787-350 en profitera, mais comme la 380 est loin d'être rentable, les compagnies lui tournent le dos. Voilà, après en février 2019 l'annonce de l'arrêt programmé de sa production, la pandémie donne déjà le coup de grâce aux 9 de Air France KLM.
Alors il y en avait 9 chez Air France. Pierre, au-delà du cas de la compagnie française, quel avenir pour l'A380? On sait que d'autres compagnies, notamment Emirates, en avaient fait leur modèle phare.
Oui, c'est vrai, on devrait tout de même en voir voler quelques-uns aux couleurs d'Emirates, qui en avait acheté 123. Les autres trouveront peut-être preneur chez des low-cost asiatiques ou d'autres affréteurs ponctuels, voire dans des musées. Mais plus sûrement, ils partiront à la casse. Ainsi, plusieurs exemplaires de Singapore Airlines sont déjà passés à la découpe.
Voilà, triste histoire quand même, celle de l'A380. Merci Pierre-Julien.
Et c'était le journal de Dominique Tenza. On part tout de suite dans le sud du Nord, avec Franck Hanson, notre correspondant dans la région lilloise. Bonjour.
RTL Matin. Yves Calvi.
Bonjour Franck.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Parce que ça fait du bien de penser à l'été et aux vacances, mais que cela fait aussi beaucoup de bien de découvrir la France. Nos journalistes en région vous font découvrir donc des lieux, des endroits, des choses à voir. Ce matin, destination donc le sud du Nord pour une balade nature au cœur du territoire de l'Avesnois, avec ses paysages champêtres, son fromage, le maroilles. Vous nous emmenez ce matin d'abord en forêt de Mormal, Franck Hanson.
Oui, avec ses plus de 9000 hectares, c'est le plus grand massif forestier du Nord, cette forêt de Mormal qui abrite de nombreux serres avec ses légendes, sur la tombe de Gargantua par exemple, est nichée au cœur d'une campagne paisible constituée de bocages. Sur la commune de Loquignol, pas très loin de Maubeuge, Pascaline Bader, la patronne de l'auberge du Coucou, connue pour ses grillades, nous accueille à l'entrée de la forêt.
C'est un écrin de verdure, un écrin de tranquillité. On a vu beaucoup de gibier ces derniers temps, puisque la forêt était très calme. Des chevrières, des chevrettes, du sanglier, petits renards on a vu passer l'autre jour. On a autour de la forêt énormément de petits producteurs, que ce soit des fromageries. Les magnifiques villages de l'Avesnois, comme Maroilles, c'est magnifique, avec les pierres bleues, les ardoises. Il y a une ambiance très rurale, très bucolique, tout à fait. Beaucoup de gens de la ville viennent ici se ressourcer le week-end.
Sur ce territoire en tirage, on compte plus de 1000 km de chemin de randonnée à travers ces villages typiques de briques et pierres bleues, des coins de nature assez préservés qui comptent de nombreux ruisseaux. Le parc naturel régional a d'ailleurs lancé une application Balade Avesnois. De quoi séduire ces randonneurs, nous confie Annie Trottin, l'une des animatrices.
Alors ici, on est au point de départ du circuit des Nerviens. Les parcours qui vous sont proposés, par exemple, on en a un sur la découverte des kiosques de l'Avesnois. Il y a les kiosques à danser et les kiosques à musique.
Un bon bol d'air, le calme, les oiseaux.
Tout est verdoyant.
Quand on marche, on peut penser.
L'Avesnois, c'est une très jolie région qui est méconnue, je trouve.
Il y a un passé historique.
Passé
aussi.
Historique ici. Vous allez à Oudin, il y a la légende du moulin, là.
Il y a un tas de choses à découvrir.
Alors évidemment, Franck, impossible de repartir sans déguster la fameuse spécialité à l'odeur, comment dirais-je, si particulière.
Oui, certains en mettent sur leur tartine. Ce maroilles, fromage à la croûte orangée, fait la fierté de ses derniers producteurs, comme à Étreux, à la ferme des Bardes. Véronique Juste, avec son mari, défendent un vrai savoir-faire dans le respect des traditions. Il faut par exemple 6 litres de lait de leur vache pour un seul fromage.
Effectivement, quand on ouvre l'emballage du maroilles, waouh, ça dégage les narines, mais quand on le met en bouche, c'est le plus fin des fromages forts. Ça se cuisine très bien en tarte au maroilles, avec des viandes.
C'est la production d'hier.
Ces fromages, une fois qu'ils descendent en cave, ils sont brossés au minimum 2 fois par semaine. Et on va avoir cette coloration orangée. Il y a la traite des vaches, ensuite il y a la production en atelier de fabrication. C'est pas la machine, c'est l'humain, c'est mes petites mains. Le maroilles, c'est vraiment l'emblème des Hauts-de-France.
Et bienvenue donc dans les Hauts-de-France. Et si vous souhaitez séjourner, le secteur compte de nombreux gîtes, par exemple autour du lac du Val-Joly, qui, on l'espère, pourront bientôt rouvrir.
On a fait une fois de plus une belle balade. Vous l'aimez comment, vous, le maroilles, Franck ?
Nature ou cuisiné, tout est bon. En tartine, mes filles adorent en tartine.
Ah, voilà. Ça, c'est parfait. Merci, Franck Hanson. Voilà. RTL dans les Hauts-de-France.